Bon, on va prier. Seigneur, merci de ta grâce et je te prie pour que dans ta bonté, Seigneur, eh bien, d'autres puissent encore profiter de ce que tu dis dans ta parole et que d'autres soient édifiés encore. Merci pour François et Sabine qui sont là. Et bénis-les, bénis-nous, Seigneur, dans ce rappel de ces vérités qui sont ta parole. Et ta parole, Seigneur, est solide, elle nous ancre, elle nous affermit et nous t'en remercions. Seigneur, je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je m'en mêle les pinceaux parce que j'ai plein de feuilles. Alors, je vais vous parler de l'assurance du salut. Dans la Bible, il y a Abraham qui est... entrée. Je suis tout juste en train de commencer, donc... Salut. Ça va?
Oui, ça va.
Ouais. C'est 10 minutes, un quart d'heure pour venir? Plus 20 minutes. Ah ouais. Ok. Je venais de dire les trois premiers mots, alors vous n'êtes pas en retard. Et donc, je vais vous parler de l'assurance du salut. Dans la Bible, on a l'exemple d'Abraham, qui est le père des croyants, à cause de sa vie de foi. Et un jour, Abraham a placé sa confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est ce que dit les Écritures. Et quand il a fait cet acte de foi, il a fait confiance au Seigneur, il avait néanmoins une question qui était dans son cœur. Cette question, c'était « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» En fait, il parlait du pays de Canaan. Il avait la promesse qu'il allait recevoir le pays de Canaan. À quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Voilà, qu'est-ce qui va me prouver que je l'ai? Et en fait, dans le pays de Canaan, il y a aussi l'image de la vie éternelle, en fait. Et donc, nous aussi, parfois, on peut se poser la question, mais après tout, comment être sûr? Comment je peux vraiment être sûr que je vais obtenir le salut final, que je serai avec Dieu dans l'éternité pour toujours? Est-ce qu'il y a une garantie? Alors, on va donner par ce petit cours des réponses à ces questions. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent inciter les chrétiens à douter de la réalité de leur salut. Alors, qu'est-ce qui peut faire douter? D'abord, certains se disent, mais c'est quand même prétentieux de dire « je suis sauvé ». Alors certains y voient de l'orgueil, une certaine forme d'orgueil, de pouvoir avancer qu'on est sauvé. Ensuite, il y a le manque de se sentir sauvé. Et puis en plus, Dieu est invisible. Et donc on n'a pas les sentiments, alors il y a un doute qui plane. Il y a aussi le péché. On est des pécheurs et on continue parfois à tomber et donc il y a la culpabilité, il y a l'indignité, tout ça, ça nous fait remettre en question, on se dit mais est-ce que je suis bien sauvé? Ensuite, il y a les sectes et puis d'autres milieux, même des milieux chrétiens, qui eux vont dire qu'on peut perdre le salut, que on est sauvé mais si on ne fait pas ce qu'il faut, hop, on le perd. Donc tout ça, ça vient mettre le doute. Et puis, il peut y avoir aussi la tendance à penser qu'après tout, le salut et l'amour sont basés sur notre performance. On se dit, mais il faut quand même que je sois suffisamment fidèle, que je fasse suffisamment pour le Seigneur, que j'œuvre ici ou là. Et voilà, il y a tout ça et on se dit, mais voilà, comment être sûr? Comment être sûr? En tout cas, un chrétien, et tout chrétien, il connaît un jour l'expérience d'être attaqué dans son âme, dans sa foi, dans ses convictions, parce que Satan essaye de nous troubler, il vient nous titiller et nous mettre dans la faiblesse et dans l'abattement. Néanmoins, Dieu nous a laissé des éléments dans sa parole qui permet à chacun de répondre pour soi-même à la question d'Abraham. Voilà, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Alors d'abord, la conversion, quand on se convertit à Jésus-Christ, hein, ce n'est pas un processus qui vient avec le temps, et la réception du salut ne s'étale pas dans le temps. Parfois, on se dit, la porte, elle est loin, et je suis sur le chemin, et un jour, je passerai la porte. Mais ce n'est pas ça, le salut. Le salut n'est pas un processus qui s'étale sur le temps. Soit j'ai reçu Christ, soit je ne l'ai pas reçu. Et tout se résume à ça, en fait. Hein. Il est écrit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc voilà, c'est tranché, hein. Soit j'ai le Fils, soit je ne l'ai pas. Ça ne peut pas être autrement. Soit je l'ai reçu, soit je ne l'ai pas encore reçu. Et quand on lit ce passage, donc c'est dans 1 Jean chapitre 5, versets 12 et 13, la suite nous montre que Dieu veut planter dans notre cœur une assurance de la vie éternelle. Donc 1 Jean 5, versets 12 et 13. Regardez, on peut lire ce verset. Peut-être Lodivana, tu veux nous lire ? 1 Jean 5, versets 12 et 13. Voilà, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est intéressant, il dit afin que vous sachiez. Dieu veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle si on a le Fils, si on l'a reçu. Il veut qu'on le sache, hein. Il ne veut pas qu'il y ait un mystère. Des fois, vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes sauvé ? Qui peut savoir ? Hein ? Comme si Dieu ne voudrait pas qu'on sache. Non, en fait, Dieu veut qu'on sache, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ensuite, l'assurance de salut, du salut ne dépend pas de mes œuvres. Ça ne dépend pas de mes œuvres, mais ça dépend plutôt de l'œuvre parfaite et achevée de Jésus-Christ. Ça, c'est important aussi. Quand Jésus était sur la croix, vous vous souvenez de cette parole, il a dit « Tout est accompli ». Ça veut dire « C'est fini, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour vous sauver. C'est mon œuvre, c'est moi qui vous sauve, et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. » En Colossiens 2, verset 14, on lit ce verset, Colossiens 2, verset 14. Il est écrit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Voilà, il y avait notre condamnation, toutes les choses que nous avons faites et même celles que nous allons faire. Hein, et il a pris cet acte, cette ordonnance, ça a été cloué à la croix pour dire, voilà, c'est terminé. La croix a effacé l'ensemble de ma condamnation. Donc c'est l'œuvre de Jésus-Christ de nous sauver. Ce n'est pas notre œuvre, c'est lui qui le fait. Ensuite, troisièmement, l'assurance du salut, elle ne dépend pas de ma persévérance. Alors peut-être on verra plus tard, hein, parfois il y a un verset qui peut vous laisser un doute sur cela. Par exemple, quand vous lisez « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Vous lisez ce verset, vous dites, mais attends, est-ce que mon salut dépend de ma persévérance? Donc, on va prendre ce texte plus tard et je vais vous l'expliquer. Mais le salut ne dépend pas de ma persévérance, mais plutôt de la puissance de Dieu de me garder. C'est encore lui qui fait la chose. Par exemple, je vais vous lire ce verset, c'est pas la peine de le prendre, mais en Jean 10, versets 28 et 29, il est dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés, mes brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, il nous donne la vie éternelle, nous sommes dans la main de Dieu et personne ne peut nous ravir, nous enlever de sa main. Nous sommes dans sa main. Un autre verset, 1 Pierre 1 et verset 5. 1 Pierre 1 et verset 5. 1 Pierre 1 et verset 5. Ici, il dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » À vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et ici, le grec du mot « garder », c'est « retenir prisonnier ». À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes retenus prisonniers par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, on est dans la main de Dieu. Personne ne peut nous en arracher. C'est Dieu qui nous garde. Et ça veut dire même que le suicide, s'il y a, c'est très très rare, mais si jamais il y avait, ça ne peut pas empêcher Dieu de nous avoir gardés et de nous garder. Vous voyez ? Une fois qu'on est dans sa main, il n'y a personne qui peut nous en ôter, en fait. Ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui nous garde. Même si on est en faillite dans notre vie, il nous tient malgré tout dans sa main. Il nous retient prisonniers. Aussi, c'est important de dire que l'assurance du salut, ce n'est pas une émotion, mais c'est plutôt une conviction qui vient du Saint-Esprit. Et là, il y a un verset, vous pouvez noter la référence, Romains 8,16, où il dit, Romains 8,16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, quand il est dans notre cœur, c'est lui qui va nous donner la conviction et nous assurer que nous sommes enfants de Dieu. Il va nous le montrer. Il nous le montre par plein de choses, par des réponses à nos prières, parce qu'il nous devance en agissant en nous rendant capables de faire des choses qu'on n'a jamais réussi à faire. Il nous parle en fait et il nous rend un témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, c'est une conviction qui vient du Saint-Esprit. Ensuite, quatrièmement, il y a des promesses. L'assurance du salut, ça ne repose pas sur des sentiments qui sont variables. Vous savez, les sentiments, c'est les montagnes russes. Des fois, on est en haut, c'est les cimes. Puis des fois, et c'est le crash. On fait ça constamment. Mais l'assurance du salut ne doit pas et ne repose pas sur les sentiments qui font ça, mais repose plutôt sur les promesses inaltérables de la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a promis. Rien que ce que Dieu a promis. En Tite, chapitre 1 et verset 2, si vous voulez, je vous le dis, je vois que vous prenez pas mal de notes, je peux vous faire une photocopie de ça après, je vous le donne. Ok ? Donc vous l'aurez. En Tite, chapitre 1, verset 2, il est parlé des promesses et il est dit « Lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Voilà. Tout le salut, tout ce que Dieu fait pour nous, eh bien c'est quelque chose qui nous a été promis dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Voilà, Dieu nous l'a promis, c'est une assurance. Je vous lis un autre verset, Jean 2, 25. « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » C'est beau ça, c'est simple. « Et la promesse, c'est la vie éternelle. » Donc ça, c'est Dieu qui s'engage. On peut avoir un moment de flottement comme ça, où les sentiments ils font ça. Peut-être parce que, voilà, c'est pas comme au début de la conversion. Hein, mais le salut ne dépend pas de ce que je ressens. Ça dépend de ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu a écrit ? Il m'a promis la vie éternelle. Peu importe si je ne le ressens pas, c'est promis. Ensuite, il y a un plan établi d'avance. Et ça, c'est important d'y penser. L'assurance du salut... Oups. L'assurance du salut dépend du plan que Dieu a établi d'avance, hein, qu'il a préparé avant la fondation du monde. Donc il y a des grands, des beaux versets. Hein. Par exemple, il est dit en Éphésiens 1, 4 et 5, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Un autre beau verset dans la même ligne, en Romains 8, 29, 30, il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Et on voit que Dieu a préparé tout un plan, hein, déjà de toute éternité, depuis très longtemps. Et on ne peut pas être sauvé, donc ça veut dire être élu avant la fondation du monde, et il y a tout ce qu'il y a avec, hein, appelé, justifié, etc., par avance. Parce que c'est ce qu'il nous dit, en fait. Les enfants de Dieu, c'est par avance. Tout ça, c'est une réalité. Ils vont le vivre. On ne peut pas être sauvé et avoir tout ça, et puis l'instant d'après, on a tout perdu. Terminé. Et non. En fait, soit, eh bien, on est sauvé. Et dans ce cas, ben, tout ça, c'est une réalité pour nous. Et il n'y a rien qui le changera. Soit on n'est pas sauvé. Et tout ça, ben, ce n'est pas encore une réalité pour nous. Soit on fait partie des élus, parce qu'on a cru en l'Évangile, et tout ça, c'est pour nous. Soit ce n'est pas le cas. Et on est encore appelé à la repentance et à la foi. Ensuite, un autre point, c'est le cadeau. Le salut, c'est un cadeau qui est gracieusement offert par Dieu. Et donc, on ne peut pas le perdre. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il dit, hein, en Romains 6, 23. Il dit « Le don gratuit de Dieu, le don gratuit, en plus il insiste. C'est un don. Un don, normalement, c'est déjà gratuit. Mais un don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et un cadeau, c'est un cadeau. Si vous reprenez de force un cadeau, ben ça s'appelle quoi ? Un vol. Est-ce que Dieu va donner, puis va reprendre et commettre un vol ? C'est pas possible. Sinon, il ne dirait pas que c'est un don, que c'est gratuit et que c'est un cadeau. Dieu nous offre la vie éternelle. Il ne peut pas nous le reprendre ou changer la donne, changer les conditions. Non, c'est un cadeau, c'est un don. Sinon, ça ne serait pas ce que Dieu dit, un don gratuit. Un autre verset cette même ligne, où il est dit dans Romains 5, versets 8 à 10, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et là, c'est intéressant parce que si Dieu s'est intéressé à vous alors que vous étiez des ennemis, loin de lui, vous ne l'aimiez pas, voilà, et que maintenant, vous vous intéressez à lui, vous êtes donné à lui, vous l'aimez, vous... Ben, Dieu vous aime davantage encore, hein. Et il ne peut pas vous abandonner, ce n'est pas possible. Si déjà vous étiez ennemi, il s'est intéressé à vous et il a donné son fils en vous prouvant son amour pour vous, alors maintenant que vous êtes dans la maison, bah, Dieu vous prend dans ses bras. Hein, et il ne va pas vous abandonner, loin de là, loin de là. Et vous savez, retenez cette phrase, la crainte de perdre ou d'avoir perdu son salut témoigne plutôt en faveur d'un salut véritablement acquis. Ça veut dire, si on a peur que Seigneur, peut-être j'ai perdu mon salut, eh ben ça témoigne plutôt que je suis sauvé. Pourquoi ? Parce que celui qui n'est pas sauvé, mais il s'en fiche de perdre ou pas le salut, hein, c'est pas grave. Mais si nous, on veut être sauvé et qu'on a peur quelque part de perdre le salut, mais ça montre qu'on est sauvé. Voyez ? Ensuite, un point très fort, une nouvelle naissance. Il faut tenir compte que le chrétien, le vrai chrétien, il est né de nouveau. De la même manière qu'il est né une première fois dans la chair. Et c'est Dieu qui prend cette illustration de la nouvelle naissance. On est sorti du ventre de notre mère et personne ne peut rien changer à ça. Vous ne pourrez jamais changer votre naissance physique. On sera toujours les enfants de nos parents, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même si on faisait des choses vraiment qui déplaisent à nos parents, hein, si nous avons encore nos parents, si nous les rejetions, si ça ne changerait rien, vous seriez toujours les enfants de vos parents. Et de la même manière... Même, j'aimerais rajouter, même si vos parents vous rejetaient, eh ben ça changerait non plus rien au fait que vous êtes ses enfants, leurs enfants. Il n'y a rien qui peut enlever cette naissance physique. Elle est définitive. Et Dieu prend le salut comme l'image d'une nouvelle naissance. Eh ben c'est pareil. C'est définitif. On ne peut rien changer. C'est vraiment une nouvelle naissance qui est définitive. Dieu nous a engendrés par l'Esprit, c'est ce qu'il dit, hein. Il nous a fait naître de nouveau. Nous sommes ses enfants. Son Esprit habite en nous. Et personne ne pourra jamais rien changer à ça. Ni Dieu, ni vous, personne. Vous êtes enfants de Dieu à partir du moment où vous l'avez reçu et vous avez cru. Un autre point, ça c'est à souligner, on peut prendre le verset ensemble. Prenez Éphésiens 1, verset 13. Versets 13 et 14. Éphésiens 1 et versets 13 et 14. Il dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Le Saint-Esprit, il nous a été donné comme un gage de notre héritage. Ça signifie qu'un gage, c'est une garantie. En fait, de notre héritage. L'héritage, c'est quoi ? C'est la vie éternelle avec notre Seigneur. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné comme une garantie, un gage de notre héritage qu'on héritera bien le royaume de Dieu. Quand quelqu'un a une dette, quand quelqu'un doit quelque chose, il peut parfois laisser un objet de valeur en disant, voilà, je te donne cette bague en or, tu la gardes, et puis, je reviendrai payer ma dette. Et si je ne reviens pas payer ma dette, bonjour Viviane, si je ne reviens pas payer ma dette, eh bien, la personne garde la bague, elle garde l'objet. Voyez ? Et Dieu dit, le Saint-Esprit est un gage de ton héritage. Ça veut dire, je te donne le Saint-Esprit, c'est la garantie que je vais te donner la vie éternelle. Qu'est-ce qui se passe si je ne te donne pas la vie éternelle? tu gardes le Saint-Esprit. C'est ça le gage. Et là, on se dit, mais Dieu et le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas se dissocier. Et donc, le fait d'avoir le Saint-Esprit, c'est l'absolue garantie qu'on a la vie éternelle. Dieu ne pourra jamais revenir en arrière. Pourquoi ? Parce qu'il nous en a donné le gage, la garantie. Il est le garant. C'est très très fort. Il n'y a pas plus fort que ça. C'est une certitude. Enfin, pour finir, l'alliance. Quand on revient dans l'histoire d'Abraham, en Genèse 15, la réponse de Dieu à la question d'Abraham permet d'introduire un grand thème dans la Bible, c'est celui des alliances. Et pour montrer la certitude de sa promesse envers Abraham, qui lui donnera bien le pays de Canaan, Dieu met en place un engagement spécial appelé une alliance. Donc une alliance, c'est un serment contractuel, un traité qui est signé entre deux parties et qui stipule les termes du traité en fait. Par exemple, une alliance de paix. On ne fait plus ça, vous ne faites plus ça, on est en paix ensemble. Il y a aussi les pénalités en cas de non-respect. Si jamais vous faites ça, voilà ce qui va se passer. Hein? Ça, c'est une alliance. Et ça peut aider à comprendre la Bible finalement en voyant la Bible comme une histoire des alliances entre Dieu et les hommes. C'est ça, une histoire des alliances entre Dieu et les hommes. Et donc, selon les pratiques de l'époque, Dieu demande à Abraham de préparer une cérémonie de signature de l'alliance. Alors, que je vous explique rapidement la cérémonie, mais il va lui dire de prendre des animaux et de les couper en deux. Parce qu'à l'époque, eh bien, quand on faisait une alliance, eh bien, on prenait un animal, on le coupait en deux, et les deux parties passaient au milieu des animaux, et c'était pour dire, voilà, je m'engage vis-à-vis de toi, et réciproquement. Ça, c'était une alliance qui était contractée. Et Dieu dit à Abraham de prendre des animaux, trois, et de les couper par le milieu et de les séparer. Et là, Dieu va faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'il va permettre qu'Abraham s'endorme dans un profond sommeil. Si bien qu'Abraham, il ne peut plus rien faire, il dort, et Dieu va passer comme un feu au milieu des animaux. Ça veut dire que Dieu va s'engager et il ne va même pas laisser Abraham s'engager. C'est Dieu qui fait alliance. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'était une manière de montrer que même en cas de non-respect de la part d'Abraham, c'est Dieu qui s'est engagé. C'est lui qui s'engage. C'est Dieu qui va assumer. Quand vous partez un petit peu plus loin dans l'histoire de la Bible et vous voyez l'alliance, la nouvelle alliance, celle que Jésus a traitée en son sang, eh bien, ça prend une perspective. Parce que là, on pense à la vie éternelle, au fait que Dieu nous donne la vie éternelle. Et c'est Jésus qui signe l'alliance avec son propre sang. C'est lui qui paye nos péchés. Et quand il est allé à la croix, il a payé les pénalités, non pas de non-respect de son côté, mais plutôt de nous, en fait. Il a payé pour nous le non-respect. Donc, il a tout pris sur lui. Il a tout pris sur lui. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous voyez que cette alliance, il est parlé de cette alliance en son sang, elle est abondamment expliquée. Et donc, dans l'alliance, Dieu nous donne une promesse doublement certaine pour nous assurer notre salut et pour nous dire c'est sûr, c'est solide, c'est moi qui me suis engagé. C'est moi qui me suis engagé. Alors je fais une toute petite parenthèse pour terminer de quelques minutes. Parfois, vous pouvez lire un passage et vous dites mais est-ce que ça ne vient pas semer le doute sur l'assurance du salut ? Alors c'est vrai, il y a quelques passages dans les Écritures où c'est un peu ambigu et on ne comprend pas. Mais d'abord, il faut faire une chose, il faut regarder tout ce que dit la Bible. Et vous savez, si 100 passages vous disent « c'est certain, La vie éternelle est une assurance que Dieu donne et on ne peut pas la reprendre, et Dieu vous le donne pour toujours. Et que vous voyez trois passages qui semblent dire le contraire, vous ne pouvez pas vous focaliser sur les trois passages. Déjà, ça serait une grave erreur. La Bible, elle s'explique par la Bible. Et donc, s'il y a un ensemble de preuves bibliques qui vous disent « c'est ça », bon, bah c'est ça. Maintenant, s'il y a trois passages, c'est peut-être que moi, je ne comprends pas bien les trois passages. Et donc, je dois essayer peut-être de réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vous citais tout à l'heure, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Là, c'est fou. On chancelle. On se dit, oh là, je tremble. Eh oui, bien sûr. Mais pourquoi Dieu dit partout, c'est sûr ? Et là, il y a un doute. Il faut chercher à comprendre. Alors, vous lisez le contexte. Vous lisez tout le passage. Vous voyez quoi ? Que ce passage, il est cité dans deux ou trois évangiles. J'ai pas vérifié. Hein. Peut-être deux. Mais le contexte, c'est à chaque fois la fin des temps et la tribulation. À chaque fois. Et si vous prenez le passage, par exemple, en Matthieu 24-25, où il le dit, hein, on peut le prendre. Regardez, Matthieu 24-25. Donc, chapitre 24 et le début. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc, là, c'est une parenthèse qui s'ouvre. On est bien d'accord. Une question. La fin du temps, la fin des temps, l'avènement, comment ça va se passer ? Donc, Jésus commence à parler. Il va dire plein de choses. Au milieu de ces choses, au verset 13, il va dire « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et puis on avance, et il continue à expliquer, Matthieu 24, Matthieu 25, et maintenant regardez tout à la fin de Matthieu 25, et même plutôt Matthieu 26, verset 1, « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. » Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la fermeture de la parenthèse. Il est en train de parler d'un temps qui est spécifique. Il parle de la fin des temps. Il parle de la tribulation. Donc, c'est une période de temps qui est à part. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Dans cette période de temps, il va y avoir les jugements qui vont tomber sur la terre. Il va y avoir la persécution qui va être faite aux croyants, aux saints, comme dit l'Apocalypse, par l'Antéchrist. Donc, ça va être un temps extrêmement difficile, avec beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs, beaucoup de difficultés. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va traverser en étant fidèle, en restant fidèle, sans me renier, eh bien, il sera sauvé. » Voyez ? Donc, si vous ôtez ce verset du contexte, vous l'appliquez à vous et vous partez dans une mauvaise direction. Il faut regarder tout dans le contexte. Et c'est valable pour d'autres versets. Par exemple, en Hébreux. Hébreux, chapitre 6, il me semble. Chapitre 6, où il dit, verset 4, 6, verset 4, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Là, de nouveau, c'est un verset où ça jette un doute. Parce qu'on se dit, mais si moi je tombe, alors terminé, j'ai eu part au Saint-Esprit. Alors d'abord, il faut expliquer le contexte. C'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, quand vous lisez toute l'Épître, vous voyez que dans l'Épître, Dieu s'adresse à des croyants, à des juifs qui croient vraiment, mais au milieu de tout cela, il s'adresse à des juifs qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Et des juifs qui clochaient des deux pieds, c'est-à-dire qui balançaient entre le judaïsme et le christianisme. On ne sait pas, ce n'est pas dit, mais peut-être qu'ils oscillaient entre la synagogue le vendredi soir et puis le dimanche matin, allaient venir voir un peu ce que disent les chrétiens. Donc ils étaient en balancement comme cela dans les deux communautés. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit « il faut faire un choix ». Il faut faire un choix. Et il dit, voilà, c'est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste. Goûter, ben voilà, c'est recevoir un petit peu. On goûte, on reçoit un petit peu. Et vous savez, quand quelqu'un vient, il écoute l'Évangile, il écoute la parole, il entend le Saint-Esprit qui touche son cœur, il sent, c'est la vérité, il est en train de goûter. Ça touche son cœur, il est en train de goûter. Mais on ne peut pas goûter sans jamais avaler, hein, sans jamais vraiment recevoir en fait, hein, et se nourrir. À un moment, il faut dire « oui, j'accepte » et on reçoit. Pas simplement goûter. Et donc, là, il est en train de parler plutôt à ces gens qui viennent, qui, voilà, ils reçoivent, mais ils ne reçoivent pas vraiment, quoi. Ils touchent un peu les choses spirituelles, ils sont touchés dans leur cœur, hein, et ils n'acceptent pas. Et puis, ben, voilà, s'ils s'écartent, eh bien, c'est terminé, terminé. Donc voilà, on peut lire toute la suite, hein, qui parle un peu de tout le sujet, mais voilà, on replace dans le contexte. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y.
Par rapport à la persévérance,
oui.
Oui.
Oui, tout à fait.
Et là, si on ne persévère pas, on ne sera pas sauvé. Donc, je voudrais dire que notre assurance de salut est limitée à ce temps-là.
Alors, moi, je crois, moi, j'ai la conviction que le salut est par la foi. Et quand Dieu nous sauve, il nous sauve. Hein? Mais quand tu prends, comment dire, ce verset qui dit que c'est par la persévérance finalement qu'on sera sauvé. Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut dire, parce que tu sais, sauver, c'est être sauvé de tout, quoi, tu vois. Et on est dans un contexte de souffrance et de, voilà, et de choses. Donc quelqu'un, Dieu lui dit, mais persévère, tu seras sauvé, tu vas traverser en fait, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que ceux qui sont dans la tribulation n'auront jamais une conviction et la certitude d'être sauvés? Je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça sera différent. Par exemple, dans l'Ancien Testament, les croyants ne recevaient pas le Saint-Esprit de la même manière que nous. David, par exemple, quand il a péché avec Bathsheba, il a dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il était dans le trouble parce qu'il avait péché. Il avait peur. Mais en même temps, comment, David était sauvé. Il avait cru, tu vois. Et le Saint-Esprit, en fait, dans l'Ancien Testament, venait sur la personne. Mais il n'était pas scellé du Saint-Esprit. Dans la tribulation, ça sera un peu la même chose. C'est-à-dire que on est dans une période qui s'appelle l'Église. Dans cette période-là, on est scellé du Saint-Esprit. C'est le gage de notre héritage, tu vois. Et moi, je pense que à la fin de cette période de l'Église, l'Église sera enlevée. Et ceux qui entreront dans la tribulation, eh bien, ne seront pas scellés de la même manière. Ça sera comme le salut dans l'Ancien Testament. Donc, ça sera eh bien, la vie de foi et de consécration au Seigneur. Maintenant, David n'a pas perdu son salut. Donc, voilà, je pense que le croyant qui traversera la tribulation, bon, David est resté aussi fidèle, tu vas me dire. Hein? Mais c'était une affaire de foi. Et je pense que ça sera la même chose dans la tribulation. Tu vois, moi je pense qu'il y a des périodes, Dieu n'agit pas de la même manière dans tous les temps. Et voilà, du temps d'Adam et Ève, c'est pas comme de notre temps. Du temps de la loi, c'est pas comme notre temps. Du temps de la tribulation, ça sera encore différent. Tu vois, et Dieu va regarder d'autres choses. D'ailleurs, quand tu lis Matthieu 24, 25, hein, c'est intéressant, dans cette parenthèse, hein, il va parler des vierges. Celle qui a de l'huile et celle qui n'en a pas. On sait que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et donc, il y a l'idée d'entretenir finalement sa foi et d'entretenir sa vie avec Dieu pour avoir de l'huile. Et donc, ça sera ça, je pense, dans la tribulation. Est-ce que ça répond un peu à ta question ? Ouais. Donc, je crois que l'assurance du salut comme un gage de notre héritage, c'est pour ce temps-ci, oui. Et que dans la tribulation, ça sera différent. Ça sera différent. On est l'épouse de Jésus-Christ. Et les croyants de l'Ancien Testament ne sont pas l'épouse. Ils sont l'ami de l'époux. Les croyants de la tribulation, c'est encore autre chose. Et nous, on est l'épouse. Et l'épouse a un statut qui est différent, tu vois. Et nous, si on fait partie de l'épouse, ne jamais douter de son salut. Jamais. Jamais. C'est...
Quelqu'un a dit que nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Mmh. Et qu'à cette époque dont Dieu parle, ils seront sauvés par leur sang.
Il y aura un choix à faire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais le sang de l'agneau sera toujours efficace et valable pour eux. Mais comme le sang de l'agneau était efficace pour les croyants de l'Ancien Testament, donc c'est toujours le sang de l'agneau qui paye. Mais voilà, les circonstances seront différentes. Pas d'autres questions ? Bien, on va prier, il est 10h. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité et nous te rendons grâce pour ce salut merveilleux que tu nous as donné en Jésus-Christ. Veuille bénir notre culte ce matin, sois avec nous et glorifie ton Fils, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen.